Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne. La saison estivale arrive à grands pas et vous avez besoin de grand air, vous avez envie de camping et de pêche, Pro Nature de Rouyn-Noranda est la solution à vos questions. Une simple visite en magasin vous permettra de constater notre vaste inventaire de cannes, de moulinets, les leurres, aussi bien les lancers légers que les lancers lourds et les cannes à mouches. Nous vous conseillerons sur les bons produits tant pour le camping que la pêche. Passez-nous voir chez Pro Nature de Rouyn-Noranda, 59 Avenue Principale, 819-797-2300.
Le mercredi balado-diffusion chez Simplement plein air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement plein air, de la balado-diffusion à son meilleur. Et voilà, on est de retour à l'émission ou à la balado, peu importe la façon dont vous nous écoutez. Et c'est le temps où on se transporte du studio au 53e parallèle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le Nord. Et oui, on va rejoindre notre ami, écoutez, monsieur Sylvain Paquin, qui est photographe animalier, mais un vrai photographe animalier. Vous allez comprendre un peu pourquoi je dis un vrai photographe animalier. Premièrement, on va aller le chercher, hein? Salut Sylvain!
Salut Guy!
Hey, tu sais, là, je disais justement aux auditeurs, un vrai photographe animalier, parce que t'es pas le genre de personne ça va être un peu dur peut-être pour certains photographes qui nous écoutent, là, mais on ne t'apporte pas tes animaux, là, comme moi, là. Tu sais, comme moi, il n'y a aucun apportage de moi, quand je vais à la chasse, oui, là, mais d'ordinaire, moi, j'apporte pas pour faire de la photo, là. Et puis, toi, ben naturellement, t'es directement en milieu sauvage, donc t'apportes pas les animaux, là.
Il n'y a pas vraiment de besoin, je te dirais. C'est beaucoup plus une problématique pour moi qui est dans un sentier à tous les jours, qui marche une vingtaine de kilomètres dans un environnement où, justement, ça pourrait être dangereux pour moi parce que à appâter des loups, des ours, tout ce que tu veux, ça crée un lien qui est pas nécessairement intéressant pour l'homme et pour l'humain. Puis après ça, tu peux avoir des problèmes. Fait que, t'sais, le faire une fois, j'ai bien de la misère à comprendre ça au niveau du code d'éthique du photographe animalier, mais ça reste quand même que ça se fait. En tout cas, selon moi, ça se fait pas. Puis ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Hein, parce que donner de la bouffe, c'est selon moi, c'est signer l'arrêt de mort d'un animal. Là.
Oui, puis c'est aussi mettre la vie des autres en danger, hein, parce que finalement, on crée une habitude chez l'ours, et puis quand la personne sera plus là pour le nourrir, ben l'ours va continuer à fréquenter et va s'approcher justement plus de l'humain, si on parle des ours, là, va s'approcher de l'humain, et puis là, ben on va avoir des histoires quelque peu farfelu là dans certains cas, parce que moi je vous dirais que il y a des endroits que c'est drôle, hein, il y a toujours des attaques d'ours à tous les années, puis c'est toujours aux mêmes endroits. Donc ça je trouve que c'est un petit peu poussé là, mais est-ce qu'il y a des, oui, on peut voir des ours, parce que toi là t'en vois là, puis t'en croises des ours, hein?
Oui, puis régulièrement, tu sais, je veux dire, samedi dernier j'ai été faire ma tournée, ma première tournée très, très tôt le matin. En 2,5 kilomètres, je n'ai vu 7.
C'est ça. C'est ça. Puis t'es encore vivant.
On s'entend, là, j'utilise pas le sentier. Si je vois que c'est un sentier d'ours, oui, si c'est dégagé ou ce que je vois 360 degrés, je vais l'utiliser. Mais je rentrerai pas en forêt dans le sentier de l'ours. Parce qu'en forêt, sentier d'ours, puis il m'a pas entendu, puis j'ai pas mené de bruit, ça se peut que je tombe face à face avec, ça se peut qu'il fasse un saut. Fait que, tu C'est une question de logique. Je n'ai rencontré un la semaine dernière. Un gros, il est énorme. Il est en train de manger du gazon. Il m'a vu. Il était aucunement stressé. J'ai continué à marcher. Pas longtemps après, il est venu se coucher. Il est venu se coucher pas bien loin de moi parce que ouais, j'étais dans l'air de repos. J'étais en train de changer des caméras. Et j'ai opéré mon drone. Il est venu me regarder. Il était quand même à une distance sécuritaire. Jamais eu de problème. C'est tout, tout est une question de respect de leur environnement, puis aussi de leur parler. Je veux dire, si tu bouges puis il est en train de manger, puis il t'entend pas dans son environnement, ben ça se peut qu'il fasse un saut puis qu'il se sente agressé.
C'est ça. Fait c'est ça.
J'ai pas vraiment de problème avec ça. Je te dirais, j'ai beaucoup plus peur de l'humain qui est inconscient en pleine nature que des animaux qui vivent là. Puis aussi, c'est une question de partage du territoire.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme un peu comme l'humain. Là. Puis surtout, là, la parallèle que je vais faire, les gens vont comprendre. Là, on le sait, on est en période de COVID. Et puis, naturellement, il faut garder le 2 mètres. Hein? C'est notre bulle. Puis quand quelqu'un rentre dans ce 2 mètres-là, on est rendu un petit peu... on n'aime pas ça. Ben c'est la même chose pour l'ours. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, oh, il va défendre son territoire. » Non, il va défendre sa bulle. Il défend sa bulle. Absolument. Rentrez pas dans sa bulle. Respectez l'animal et puis vous aurez pas de problème. Puis, moi, vous dire, comme là, toi, t'es privilégié parce que t'en vois beaucoup, tu vis dans la nature. Mais monsieur... tout le monde, je vous dirais que de rencontrer un ours, de croiser un ours, c'est rare. Là.
Oui, effectivement, c'est rare, mais c'est que souvent, on les voit pas, les ours.
C'est ça.
Ils sont occupés, ils nous ignorent. C'est sûr et certain que il faut pas non plus courir après. Si tu sais que tu as un ours puis tu as le goût d'aller prendre un selfie... ben l'ours qui va être en train de manger ou qui va être en train de se faire chauffer au soleil, si, comme tu disais tout à l'heure, tu rentres dans sa bulle prendre un selfie avec ton téléphone, ça se peut qu'il se sente pas trop heureux d'être content. Là.
C'est ça. C'est ça. Puis les gens respectent pas ça. Hein. Les gens veulent tout. Surtout là sur Instagram, il y a eu beaucoup de fameuses photos où les gens risquent leur vie, font la même chose avec les animaux. Moi, tu vous dire que il y en a que c'est un petit peu sur le bord du ridicule. Là.
Oui, mais tu sais, c'est la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, ça revient toujours à dire que t'as des influenceurs qui font de belles photos, qui romancent les trucs en disant ah oui, c'était génial. Ouais, mais t'as mis ta vie en danger pour aller photographier un ours. C'est de plus en plus des problématiques dans des parcs, dans des endroits. Puis je veux dire, à un moment donné, il va arriver un incident. Puis quoi, on va tuer toutes les ours, on va tuer toutes les loups. Parce qu'il y a eu deux ou trois morons qui ont poussé le bouchon un peu loin.
Oui.
C'est un peu ridicule.
Oui, c'est ça. Puis en parlant justement de loups aussi, c'est la même chose. Écoute, t'en vois combien de loups dans une semaine? C'est les mêmes peut-être, là, mais t'y vois combien de fois, tu sais?
Écoute, les voir, c'est une chose. Je te dirais régulièrement. Sauf que je vais voir, comme là, dans ce temps-ci, il me tourne en entour. Pourquoi? Parce que il bouge énormément. Je vais en voir peut-être 4-5 fois, 6 fois, 8 fois, 20 fois. Mais ça, c'est moi, je l'ai vu. Mais combien de fois que si je regarderais un petit peu partout, ils sont cachés, tu y vois pas la tête, je passe pas mon temps à épier toutes les bords d'arbres pour savoir, mais je les vois régulièrement. Dernièrement, j'ai été chercher mes cartes mémoire. À un moment donné, les loups, ils ont hurlé dans ce que moi j'appelle la forêt pédagogique à côté du camp. À un moment donné, ça a hurlé encore plus proche. Puis pour réaliser qu'à 200 mètres dans la forêt avant de moi, ben t'avais probablement Frankie qui était là avec les louveteaux. Puis ils ont chanté un méchant bout. J'ai eu le temps de prendre mon appareil photo, faire une courte vidéo de quelques secondes. Mais il était en avant de moi. Là.
C'est ça.
Fait que combien de fois que eux m'ont vu que moi je les ai pas vus,
oh
mais je
God.
Ne cherche ouais. pas, je cherche pas à prendre contact. C'est eux qui se pointent le bout du nez. C'est que si je cours après eux autres, ben, c'est sûr, à un moment donné, ils toléreront pas ça, là.
Non,
je veux dire, le moment loup avec des louveteaux, si tu veux aller la photographier parce que tu sais qu'elle est 200 mètres en avant de toi, ben, tu n'en vas pas là. Tu longes un petit peu plus loin, tu fais juste te déplacer. Puis, si elle veut se pointer le bout du nez, elle va se pointer le bout du nez, puis tu la prendras en photo, tu la regarderas.
C'est ça.
Mais tout est une question de respect.
Oui, puis écoute, Sylvain, déjà là, le temps file tellement rapidement. Écoute, si on veut plus d'informations, si on veut suivre ce que tu fais, les gens peuvent le faire de quelle façon?
Manière la plus simple, www.animalpaquin.info. Puis une petite recherche avec le hashtag animalpaquin, vous allez trouver mon Instagram, Facebook, gênez-vous pas. J'ai encore de la place. Puis écoutez, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Gênez-vous pas, je suis là pour ça.
Oui, c'est ça. Puis j'ai oublié de mentionner que Sylvain est aussi guide animalier. Hein. Si vous voulez aller faire un tour, comme il vous l'a dit, dépêchez-vous, par exemple, il reste un petit peu de place, donc vous pouvez réserver ses services, puis avoir une journée pas inoubliable, une journée plus qu'inoubliable. Donc là-dessus, nous, on va rejoindre Sylvain la semaine prochaine. Bonne semaine, Sylvain.
Salut, Guy.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour. Cette fois, on va parler chasse. On va parler chasse peinte. On va parler de la petite chasse. Ça, c'est une bière. Et oui, on va parler bière. On va parler bière de microbrasserie. La microbrasserie, naturellement, vous l'aurez deviné, de la chasse peinte à l'Anse-Saint-Jean. Magnifique endroit. Et on va parler de la petite chasse, qui est une bière, croyez-le ou non, avec notre ami Kevin Plante-Germain de la balado diffusion L'Âge de bière. Salut, Kevin.
Salut, mon cher Guy.
Hey, c'est ça, là, j'ai fait un peu de jeu de mots, je suis tout twisté dans mes affaires, je suis en train de me perdre, parce que quand on parle chasse, moi, je viens tout oui et tout énervé. Mais là, la petite chasse, donc, ça, à cause de la microbrasserie de la chasse peinte, j'imagine que c'est leur bébé. Presque.
Ben ça fait partie des régulières de la chasse peinte. C'est une bière particulière. C'est une bière qu'on appelle une gruite.
Oh,
je sais pas si tu avais déjà entendu
non.
parler de ça.
Non, une truite, oui, mais une gruite,
oui.
Non.
C'est pas tout à fait la même chose.
C'est ça.
Dans le fond, une gruite, c'est une bière sans houblon.
Ah, OK.
Ouais, c'est une bière qui est amérisée et épicée par différentes herbes.
Oh wow, OK.
Au lieu de mettre du houblon. Dans le cas ici, on parle de sarrasin, baumier, d'armoise, d'achillée millefeuille, thé labrador, poivre d'étude.
Oh là là, OK, ouais. Des choses qu'on retrouve dans le bois, hein?
C'est ça. C'est la particularité un peu de cette microbrasserie-là. C'est que dans leur bière, il y a toujours des plantes ou des épices naturelles qui rendent le côté un peu intéressant puis différent des autres bières. Il y a toujours, que ce soit des fleurs, que ce soit du baumier, que ce soit du thé, que ce soit ils ont vraiment là, toujours cette petite touche-là herbacée qui est super intéressante.
Mais ça doit donner un goût assez particulier et une couleur assez particulière à cette bière-là. Hein?
Ben, en fait, cette bière-là, ça a une couleur dans l'orange foncé qui tire un peu sur le brun caramel. OK?
Wow.
Du haut, le malt, évidemment, qui a été utilisé pour ça.
Ouais,
bonne turbidité, tu sais, on est complètement opaque. Bonne présence de particules qu'on voit dans la bière, que ce soit les levures, les adjuvants, les épices, là, il y a de la particule dedans. Une mousse qui est blanche ivoire, ça s'estompe rapidement. Petite activité effervescente à l'intérieur. On parle d'une bière de 5,2%, disponible en bouteille 500 ml. Dessus la bouteille, il y a comme une espèce de petit renard, un petit dessin, un petit renard avec un petit poème. C'est un peu comme en dessin pastel, c'est très joli.
C'est joli.
Au nez, ça sent les épices, ça sent le thé, les arbres boréales, la bergamote, ça sent c'est très céréalier, c'est malté également, fait que le côté un peu caramel qui ressort. Quand on la boit, quand on prend une petite gorgée, c'est un corps qui est rond de façon modérée, donc c'est pas une bière sèche, c'est pas une bière trop lourde, mais il y a une certaine rondeur créée par le malt. Texture soyeuse avec un côté poivré qui ressort, donc le petit côté un peu poivre blanc. L'œuvre des épices fait en sorte qu'on dirait que c'est de la cervoise. Je ne sais pas si tu as déjà vu de la cervoise.
Oui, oui, absolument. Bon. Oui.
Ça fait un peu penser à ça, sans le côté acide. Le cervoise était un peu
acidulé. Ouais.
Mais celle-là, c'est vraiment plus herbacé. Puis, tu sais, on goûte beaucoup les notes sapineuses du baumier, des saveurs d'automne. Tu sais, je disais bergamote, on pense un peu à les épices d'automne là, qu'on voit souvent dans les bières aux citrouilles. Là, ça pourrait ressembler un peu à ça. Fond mal caramélisé, l'amertume, elle est douce, très, très douce. Elle est herbacée. C'est vraiment une bière super, comment je pourrais dire ça, pas verte, mais bière herbeuse. Une bière de thé, une bière de nature. Ça goûte ça goûte la nature, ça goûte le bio. Là,
wow, ça c'est vraiment intéressant dans le sens que, tu sais, moi j'aime ça, là, qu'on utilise les éléments qu'on retrouve dans nos forêts et puis au lac on le fait si bien. Hein. Au Saguenay, au lac, partout dans ce coin-là, on utilise des éléments du terroir, là, des éléments qu'on a dans nos forêts. Et puis là, ben, dans une bière, ça la rend encore plus intéressante, là, pour moi, de toute façon, parce que on sait que je suis amateur là, justement de produits de la forêt. Donc, c'est plus intéressant. Et puis, je suis certain que nos auditeurs aussi, ils n'ont une cause. On savait qu'il y avait certains éléments qui sont utilisés, mais pas à ce point-là.
C'est fou parce que ça va tellement rajouter une nouvelle profondeur aux bières, un nouvel éventail de saveurs. Puis, au Québec, on a la chance d'avoir des plantes qui sont super intéressantes, qui sont super savoureuses. Puis de plus en plus, les microbrasseries et même les distilleries s'en servent. On connaît très bien les gins boréales là, qui sont très forestiers. Puis au niveau de la bière, la Chasse-Pinte se démarque beaucoup là-dedans. Je vais juste faire un shout-out à leur IPA rousse, qui est une IPA qui est aussi au sapin baumier. Mmh. C'est vraiment fou, là, ça goûte le sapin, ça goûte la myrique, ça goûte le bois, ça goûte la forêt, ça goûte... C'est super intéressant, quand tu aimes tout ce qui est forestier, tu vas vraiment trouver ton plaisir là-dedans. Puis, tu sais, si on revient à la petite chasse, ça me fait penser beaucoup à une espèce de tisane naturelle. Mm-hmm. Tu sais, mm-hmm. C'est comme une bière à la tisane de forêt, thé boréal. Ça goûte la nature. Je dirais que c'est comme la bière idéale pour être sur sa galerie au printemps ou bien en automne au chalet, tu sais.
Oui, oui. Et puis, tu sais, si tu décris juste... les composantes, on dirait que tu décris une tisane, finalement.
Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. C'est souvent des bières qui vont être aromatisées avec des herbes de thé. Puis la Chasse-Pinte en font beaucoup. Là. Ils ont un porteur au puer, ils ont une bière au thé du Labrador, là, une ambrée au thé du Labrador, une saison au sarrasin, une saison au houblon. C'est vraiment leur domaine d'expertise, ça vaut la peine d'explorer.
Oui, absolument. Puis ça, je ne me rappelle plus si tu l'as dit ou pas, mais le taux d'alcool est quoi? C'est une bière forte? C'est une bière...
Non, c'est quand même léger. Là. On parle de 5,2%.
Ah, c'est bon. C'est dans le mid-range, là, comme on appelle. Tu sais, moitié-moitié. C'est pas trop faible, c'est pas trop fort. C'est une bière, naturellement, comme tu le dis, qui se déguste bien. Au camp de chasse, là. Tu sais, quand on revient d'une chasse le soir, là, surtout à l'automne, on sait qu'il fait noir de tôt, quand on est à la chasse à l'orignal, donc on revient et puis ça serait une bonne bière aussi à déguster devant notre foyer ou devant, tu sais, une petite poêle à bois là, quand on est au camp là, de chasse ou peu importe où on est, au chalet ou à la maison, si on a la chance d'avoir un foyer, ça serait super belle bière, ça.
Cette bière-là, elle goûte simplement le plein air, Guy.
Oui, oui, c'est justement. J'ai comme l'impression qu'on va l'adopter. En tout cas, on va la rechercher, c'est sûr et certain, parce que cela, moi, tu m'as complètement vendu là, le goût. Je veux y goûter. Absolument, absolument. Je crois que ça va devenir notre bière simplement plein air, là.
Ah, peut-être une association serait-elle possible?
Ah, ça serait le fun, ça. Ça serait super le fun, mais c'est ça, c'est ce qu'on recherche. Hein. Et puis, surtout quand tu as commencé à parler de poivre de dune et puis tout ça, qu'on utilise beaucoup, nous, dans nos recettes. Nancy, justement, dans sa chronique bouffe, elle parle souvent de poivre de dune. Alors, tu sais, il y a tous des éléments là-dedans, sapin baumier, des éléments qui nous rattachent à notre nature. Donc, wow, c'est super le fun, mon cher. Et puis, écoute, naturellement, Kevin, toute bonne chose a une fin. Mais en terminant, j'aimerais que tu nous rappelles quand est-ce qu'on peut écouter les balados de l'Ange de bière. J'aimerais ça que tu nous dises où les trouver aussi.
Ben oui, vous les écoutez en tout temps. Nos épisodes sortent le jeudi, disponibles sur tous les balado-diffuseurs Android, également sur Apple Podcasts, sur Spotify, Google Play, Balado Québec. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. On est disponible un peu partout. On a également un Patreon si vous voulez nous soutenir, nous aider pour avoir des petits bonus intéressants et avoir même un droit de pouvoir sur le podcast.
Hey, wow, ça c'est le fun. Donc là-dessus, nous, ben bonne bière tout le monde, bonne semaine. Et soyez très prudents. Bière n'égale pas route, n'égale pas prendre la route avec une coupe de bière dans le nez. C'est pas une bonne chose à faire, c'est le temps des vacances. Profitez-en et on veut que vous soyez là pour nous réécouter la semaine prochaine.
Merci, salut Guy.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Que vous nous écoutiez en balado ou à la radio, au dodo, au boulot. Attention au boulot, faites attention à ce que vous faites. Ou si vous êtes en auto, ben regardez en avant. Mais ouvrez bien grand vos oreilles, parce que là, on va aller rejoindre un passionné de la nature, un passionné du bois, un passionné de bois, mais un passionné, un vrai, Monsieur Guy Larochelle. Salut, Guy.
Bonjour.
La semaine passée, on avait abordé, parce qu'on sait aussi qu'une de tes passions, c'est les petits fruits, que ce soit des petits fruits, là, comment je te dirais ça, là, qu'on peut retrouver partout dans les champs, mais aussi dans les arbres. Mais là, voilà que je vois passer la semaine passée, puis je me suis gratté un petit peu la tête parce que je me disais, j'ai vu fleurs, j'ai vu miel de trèfle. J'ai dit, coudonc, Guy, tu es rendu avec des abeilles. Pour ça que je t'ai un peu posé la question ce matin. Et voilà, non, vous l'avez fabriqué.
Oui, absolument. Puis c'est très, très facile, Guy. Et là, on a beaucoup, beaucoup de fleurs de trèfle. Et ce qui se passe avec le trèfle, bien, la fleur ne dure pas très longtemps.
Ouais.
La recette, elle est très, très simple.
Hey, c'est-tu un secret, Guy, ou tu peux nous la dévoiler ou tu peux l'afficher sur ta page?
Non, j'ai commencé. Moi, je pense que je l'ai écrit sur ma page. Je vais compléter le texte. Pour pouvoir, parce qu'il y a quatre choses dans le miel de trèfle. Premièrement, c'est entre 30 et 50 fleurs de trèfle. Il faut enlever, des fois, aussitôt qu'elle devient à maturité, il y a une petite partie brune. Ça, on l'enlève. On enlève les feuilles aussi. Et là, entre 30 et 40 fleurs. À ça, on va ajouter 4 tasses de sucre, une tasse d'eau, puis 3 quarts de cuillère à thé d'alun pour la conservation. On fait bouillir le tout lentement. Et on va passer ça au filtre. Moi, je prends du coton fromage. Mm-hmm. Et là, il va monter en miel. Là, ça sera vraiment pas long. Et c'est excellent. Goût parfumé. C'est vraiment, vraiment bon.
Oui, puis que je me l'ai dit, Guy, le temps de cuisson, là, parce que faut faire attention. Hein, ça doit quand même épaissir assez vite, cette affaire-là.
Oui, puis si on dépasse le temps de cuisson, bien, il pourrait tourner en sucre, ce qu'on veut pas.
Ouais.
Et là, ça... Je vais le mettre sur ma page, la petite recette pour le miel. En plus, à ça, on peut ajouter quelques pétales de rose, du rosier sauvage.
Oh là là,
mais on pourrait prendre le rosier qu'on a plus de ville, là, qui pourrait très bien faire. Nous, on a pris le rosier sauvage parce qu'il était disponible. Ça aussi, ça ne dure pas longtemps, ça dure à peu près une semaine dans les arbustes.
Oui, puis une autre question qui me vient en tête, l'alun, tu le trouves où?
On le trouve à l'épicerie, tout simplement, avec les produits, là. Oui, avec les épices, parce que là, on n'a pas besoin beaucoup, et ça peut servir dans certaines recettes, nous, on l'avait, là, de disponible chez nous.
Ah, OK, mais l'alun, on peut-tu aussi, c'est-tu le même qu'on retrouve en pharmacie?
Écoute, je ne m'avancerai pas là-dessus.
Ah, OK.
Parce que j'ai vu l'alun pour dans l'alimentation.
Mm-hmm.
Oui, on le retrouve en pharmacie, là, parce qu'on va faire certains produits pour le tannage, on va se servir d'alun aussi. Oui,
c'est ça.
Je il y a peut-être question de concentration, là. Ça, je ne l'ai pas vérifié. Moi, j'ai pris celui pour la cuisine.
C'est ça. Ah, OK. Bien, on va vérifier. C'est la première fois, tu vois, que j'en entends parler. Une autre chose aussi, Guy, la semaine dernière, on parlait là, de l'abondance de petits fruits et tout ça, dû à la température un peu chaude et sec. Qu'est-ce que ça a l'air? Comme là, les fraises, c'est doit être un peu terminé ou on est dedans ou comment ça marche?
Bon, les fraises, dépendant des secteurs, là, ici autour de Rouen, moi, l'endroit que je voulais récolter, bien, ça l'a gelé dans la lune qu'on a eue en juin. Mais il y a d'autres endroits très près de Rouen que ça n'a pas gelé. Et la semaine dernière, je voyais des gens récolter. Au Témiscamingue, la semaine dernière, ça récolte beaucoup. Je pense qu'on va en avoir encore pour peut-être une semaine, là. Mm-hmm. Mais ça, c'est variable d'une place à l'autre. Mais oui, il y en a. Question de bleuets, on va en avoir. Mais là encore, ça dépend des zones. Il peut y avoir des petits secteurs que ça l'a gelé. Pour ce qui est des arbres fruitiers, petits merisiers et cerises à grappes, on va en avoir aussi de ça.
Ah, oh, c'est bon. Donc, ça n'aurait pas été affecté ou c'est plus, comment qu'on dirait ça, rustique, plus, comment je pourrais dire ça, là, plus endurant au gel.
Peut-être plus résistant au gel, mais dépendant quand le gel arrive, ben là, la fleur peut résister ou pas, dépendant à quel état elle est rendue lorsque le gel passe. Mais présentement, on n'a plus de problème. Là. Ce qui est en fruit actuellement va faire des fruits matures.
Donc, OK, c'est ce qui est en fleur puis ce qui est en fruit, là, il n'y a plus de danger.
Il n'y a plus de danger.
Ah, OK. Mais ça, écoute, il y a beaucoup de choses, comme les fraises, tu m'as dit, toi, tu n'as pas eu la chance d'en récolter, j'imagine, ou n'as-tu récolté un peu?
Non, de la fraise, on n'en a pas récolté. Il aurait fallu vraiment que je dise, ben là, c'est le bon moment, j'y vais, mais on a tellement de choses à faire qu'on a comme manqué notre coup pour ce qui est des fraises de champ.
Oui, c'est ça. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je sais que le bleuet, ça, tu ne manqueras pas ça du tout, là. Je pense
non,
que c'est.
Le bleuet, à août, on disait la semaine dernière, à août à octobre, la période est longue. Puis aussi, le bleuet, on peut en retrouver assez tard en saison lorsqu'on va dans des endroits qui sont, disons, plus forestiers, plus couverts. Mm-hmm. Bien, il est plus tardif à ce moment-là, là, le bleuet.
Ah, OK. OK. Oui, comme tu nous le mentionnais. Et puis là, comme c'est là, tu nous dis qu'il reste un petit peu de temps pour la fraise, mais la prochaine récolte serait quoi?
Ça va être le cerisier, petit merisier et bleuet.
Ah, OK.
Framboise aussi. Framboise, ça s'en vient. On commence à avoir des fruits chez nous, là, parce qu'on a quelques pieds de framboise. Et les fruits, là, ils sont blancs présentement. Oh. Alors, fin juillet, la framboise va commencer.
Fin juillet, OK, on tombe dans framboise. Et puis, naturellement, ben, en Abitibi, on n'a pas les ronces, là, ce qu'on appelle communément les mûres. Là. On n'a pas.
Non. À moins d'en avoir en ville là, dans notre potager. Là. J'ai quelques plants qui m'ont été donnés.
Ah, OK.
Ça va aller à l'année prochaine là, pour avoir des fruits.
Ah, mais c'est le fun. Ça, c'est bizarre à comprendre parce que c'est encore une plante qui est assez rustique, mais qui ne pousse pas dans le nord. Pousse pas au nord, en tout cas, du moins au nord, en Abitibi. Là.
C'est ça.
C'est assez spécial quand même.
C'est mis quand même, je crois qu'il y en a.
Ah, OK. Parce que je sais que moi, ici, je n'ai pas remarqué encore, là, mais dans le temps que j'étais à Québec, là, ces coins-là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, Guy, on continue à te suivre, on continue à. Naturellement, là, on va regarder pour la recette de trèfle, parce que nous, d'après moi, là, on doit être pas mal sur le bord, ou en tout cas, on est dépassé la feuille de trèfle, les trèfles, là, je veux dire, pas la feuille, mais les fleurs. Là. Si on ne l'est pas, en tout cas, je vais activement rechercher. Ça, c'est la fleur mauve, là.
Exactement, il y a de la mauve, rose, et ça va jusqu'à blanche. Blanc aussi.
Oui, j'ai déjà vu de la blanche aussi, tu as raison.
Ouais.
Donc,
on peut mélanger les deux dans la recette.
C'est ça. Et puis, naturellement, on peut te suivre sur ta page Facebook Guy La Rochelle. Et puis, c'est sûr et certain, la semaine prochaine, bon, on va parler encore là de bonnes recettes et puis de petits fruits. Parce que finalement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions pour la saison, justement, pour le temps, où les cueillir aussi. Les endroits où les cueillir, t'en as parlé un peu pour la fraise et le bleuet, mais moi, une qui me qui me vient en tête, c'est la mélanchie. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Et le cerisier à grappe aussi, à grappe, cerisier sauvage, là, de Virginie, c'est ça?
Il y a le cerisier de Virginie et le cerisier de Pennsylvanie. Les deux poussent ici. Il y en a un qui est plus facile à récolter, qui est le cerisier de Virginie, parce qu'il pousse vraiment en grappe.
Oui, bon, donc on va parler de ça la semaine prochaine, mon cher. Et puis, écoute, bonne semaine et bonne récolte si tu fais de la récolte.
Hey, merci. Bonjour à tout le monde.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Et c'est le temps de l'émission où on va parler de plantes, et vous savez, quand on parle plantes, on parle avec M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière.
Oui, bonjour, M. Martin.
Vous savez que M. Larivière est un auteur, est aussi éditeur, conférencier, beaucoup de talent. On pourrait y donner tout ça, puis encore plus. Mais moi, là, ce que je vais vous... Ben pas moi, mais ce qu'on va vous parler ce matin... C'est la petite bardane, et je suis certain que le nom, peut-être que ça vous dit rien, là, mais il y en a beaucoup que, quand on va parler de toques, et oui, les fameuses toques qu'on lançait dans les cheveux des filles quand on était jeunes, ah, mais c'est pas juste ça, hein, c'est peut-être même prédécesseur à notre velcro qu'on connaît, parce que ça collait dans les cheveux de quadrard. Mais c'est une plante multi-usage et on va en parler justement. Monsieur Larivière, la petite bardane, une autre plante, encore une fois, qui est vraiment, comme je le disais, multi-usage.
Absolument, parce que, écoutez, vous l'avez bien dit, la partie souterraine a des propriétés. On peut aussi utiliser la partie aérienne, les fameuses feuilles. Donc, c'est une plante qui appartient encore une fois à la famille du pissenlit, la marguerite, les épervières. Et pour dire à nos auditeurs que des fois, il y a des familles botaniques qui sont un peu comme des familles humaines. Elles sont prolifiques et elles ont des moyens, autant de reproduction que d'envahissement assez incroyables. Et elles dominent souvent l'environnement. C'est assez extraordinaire.
Oui, c'est une plante qui est très facile aussi à reconnaître, là. Et puis, elle a des drôles de noms, hein. On lui a donné souvent la rhubarbe sauvage, rhubarbe du diable, tabac du diable. Mais c'est vraiment une plante, comme vous le dites, rendue à l'automne. Est-ce que c'est principalement à l'automne, que je devrais dire, là, qu'on récolte les racines et puis tout ça, où on peut le faire avant, ou qu'est-ce qui est consommable dans cette plante-là?
Écoutez, il y a une règle générale pour les plantes et la consommation des racines. C'est surtout à l'automne, au moment où la racine là est bien gorgée de nutriments puis de propriétés médicinales. Elle a fait ça pendant tout l'été. Puis la plante, elle a fait pas ça pour nous donner des médicaments, là. Elle fait ça pour se protéger des prédateurs qui vont se retrouver dans le sol. Alors, pour elle, c'est une protection. Et donc, c'est à l'automne. Et si on l'a pas fait à l'automne, ben à l'hiver, avant que les feuilles reviennent vivantes et qu'elles... et que les fleurs vont être produites, qu'on pourrait encore cueillir. C'est ce qu'on peut faire avec, entre autres, avec les pissenlits. Mais il est recommandé tout le temps de cueillir les racines des plantes médicinales à l'automne, après, donc au moment où la plante rentre en repos. Hmm. C'est une règle générale.
Donc, est-ce que ça serait bon d'attendre une gelée ou d'y aller directement à l'automne? Un automne qui serait doux, là, on pourrait aller commencer à récolter.
Écoutez, ça, la littérature ne le dit pas, là. On cueille, donc, aussitôt que les feuilles dans les arbres tombent. Puis on voit bien que cette plante-là, comme toutes les autres, elle se prépare à rentrer en dormance. Bon, sous nos climats, ça va être sous la neige, évidemment. Ça fait qu'on y va. Il faut savoir aussi que la petite Bardane, les Toques, en latin, Artium minus, c'est une plante qui est bisannuelle. C'est un peu comme la grande molène. Il y a bien des plantes qui sont comme ça, là, qu'on va consommer ou pas. La plante, la première année, après la germination des graines, va commencer à produire des feuilles. Et les plantes ont un tour dans leur sac. Elles vont produire des feuilles qui vont se disposer progressivement en structure qu'on appelle une rosette. Donc, cette rosette-là se trouve à faire disparaître la compétition. Elle écrase toutes les autres plantes autour. Puis, vous savez que la petite Bardane produit des très grandes feuilles.
Oui, ça, je m'en allais dire, à prendre la place. Elle prend énormément de place. Mais est-ce que c'est vrai l'adage qui dit que la largeur de la plante serait sa largeur racinaire? Est-ce que c'est possible?
En tout cas, c'est très souvent quand on parle de ce que vous venez de dire, là, on parle souvent du volume que prend la racine dans le sol.
Ouais.
Mais cette plante-là, la petite Bardane, évidemment, a une racine pivotante. Donc, quand on veut aller la chercher, bien, on le faudra creuser avec souvent une pelle là, pour aller la chercher au complet. Puis, regardez, c'est quoi le principe qu'il y a derrière ce que vous venez de dire, là, les racines vont être comme la partie aérienne. Bien, une racine, quand ça se développe, ça va s'étendre dans le sol pour être capable de prendre l'eau qui va tomber des feuilles en dehors des feuilles. Alors, c'est les racines d'un arbre, par exemple, ou n'importe quelle plante, il n'y a aucun intérêt à rester bien droite en dessous du tronc ou en dessous de la tige principale, parce que l'eau qui tombe, elle n'arrivera pas. Donc, les racines ont tout intérêt à s'agrandir et à prendre de l'espace pour être capable de récupérer de l'eau qui va tomber de la plante. Et cette eau-là, habituellement, elle arrive, elle va passer au travers du sol, puis elle va arriver avec des minéraux, et c'est ce que les racines recherchent.
Ah, c'est bien, bien logique. J'aurais dû y penser, justement, parce que...
La nature est tout le temps logique.
Ah, que c'est bien fait. Oui, justement, c'est tellement spécial. Comment vous dites ça?
Mais il faut le savoir.
Oui, non, exactement. Puis c'est le fun qu'on ait des chroniques comme ça, justement pour s'éduquer. Et puis là, ben une fois la racine récoltée ou cueillie, si on veut, en une minute, là, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on la déshydrate? Est-ce qu'on la congèle? Est-ce qu'on la met en pot? On fait quoi avec ça?
Écoutez, la racine, quand elle est cueillie, on peut très bien la déshydrater parce que ça se conserve très bien dans des bocaux, comme ça. Parce que c'est une grosse racine, mais c'est pas une très grosse racine, donc ça se déshydrate relativement bien. Puis elle va être grosse, la racine, juste en dessous de la plante, de la rosette de feuilles, mais elle va rapetisser au fur et à mesure qu'elle va pénétrer dans le sol. Moi, je pense que c'est une très, très bonne façon de conserver la racine pour des usages ultérieurs.
Super.
C'est sûr qu'on peut les congeler, là, mais...
Oui, ça serait différent. Écoutez, M. Lagrière, c'est tout le temps qu'on a, mais je m'en voudrais de quitter avant de dire que, écoutez, j'ai peut-être l'air intelligent des fois là, dans mes dires, mais toute ma documentation vient de plantes comestibles et médicinales de la forêt boréale et bienfaits du chaga de M. Larivière, et oui, qui est éditeur, qui est aussi auteur et conférencier, comme je le disais au début. Et si on veut vous rejoindre, M. Larivière, pour, si on a des questions, si on veut vous inviter, on le fait de quelle façon?
Écoutez, moi, je suis sur Facebook. Alors, Roger Larivière sur Facebook, vous écrivez, recherchez. Alors, je suis facilement rejoignable, entre guillemets, de cette façon-là. Également par mon site web naturat.ca, N-A-T-U-R-A-T.ca. Alors, écoutez,
très rejoignable.
Et je suis toujours disponible pour répondre à toutes les questions. Et je pense que la chronique de Simplement plein air nous permet de rejoindre bien des gens qui sont intéressés autant par les plantes,
absolument,
les champignons, la nature en général.
Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, joignez-vous à nous, car M. Larivière va nous parler de la petite oseille, la fameuse surette, là. C'était donc tous des beaux souvenirs, hein, ces plantes-là. Donc, joignez-vous à nous la semaine prochaine à ne pas manquer. Là-dessus, ben, si vous vous aventurez dans la forêt, attention, si vous aventurez dans les champs aussi, attention, parce que des fois, il y a des petites bébites qui sont indésirables. Donc là-dessus, moi, je vous dirais bonne semaine, M. Larivière.
Bonne semaine, M. Martin. À bientôt.
Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
La saison estivale arrive à grands pas et vous avez besoin de grand air, vous avez envie de camping et de pêche, Pro Nature de Rouyn-Noranda est la solution à vos questions. Une simple visite en magasin vous permettra de constater notre vaste inventaire de cannes, de moulinets, les leurres, aussi bien les lancers légers que les lancers lourds, et les cannes à mouches. Nous vous conseillerons sur les bons produits, tant pour le camping que la pêche. Passez-nous voir chez Pro Nature de Rouyn-Noranda, 59 avenue principale, 819-797-2300.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.